Le Blabla Mix 99.1 et 102.4 FM.
Covid-19, Evreux sont agglomérés.
On va passer cette crise.
Je pense que je m'enferme.
The French government is requisitioning all.
Plus contagiati dal virus a uccidere.
Et l'après-crise sera ce que nous en ferons tous.
C'est toi, toi qui es derrière ton poste, toi qui es avec nous sur le mix des cultures. On te souhaite la belle et bonne après-midi. On espère que tu passes un agréable moment, bien sûr. Hein, voilà, ce moment confiné qui fait serrer un peu les dents, qui fait serrer un peu notre esprit, qui, on l'espère, va bientôt pouvoir sortir, va bientôt pouvoir s'aérer, prendre l'air. Mais en tout cas, je pense que vous chopez pas mal d'informations, soit sur les réseaux, les journaux, les PQR, c'est-à-dire la presse régionale quotidienne, la presse quotidienne régionale, voilà, si je dis PQR, c'est pas PRQ. En tout cas, bienvenue aujourd'hui dans ce Blabla Mix spécial Covid, comme à son habitude, en ce mardi 28 avril, 17h-18h, ce Blabla Mix, toujours là, présent, en direct, en tout cas avec vous. Aujourd'hui, le programme, j'ai l'impression de dérouler un petit menu, hein, vous savez. Alors, qu'est-ce qu'on va manger pendant une heure? Eh bien, on aura le plaisir de déguster un billet d'humeur avec notre chère Elvire Lecossec, qui refera son entrée quelques petites minutes, hein, puisqu'on va ouvrir l'émission avec elle dans quelques instants. Un billet d'humeur un peu maussade, un petit peu, je dirais. C'est vrai que si on regarde un peu le ciel, il est là, mais il n'est pas là, un peu nuageux, un peu pluvieux, pas trop de rayons de soleil qui nous réchauffent nos cœurs, en tout cas pour ce jour. Mais voilà, un billet d'humeur un peu maussade, mais vous allez voir, avec toujours de la musique de film, toujours avec des partitions que vous connaissez, et ça, on aura grand plaisir à recevoir Elvire avec nous dans ce Blabla Mix. On refera un petit tour du côté des écoles avec le haïku de l'école Marot, l'école située sur les Hauts-de-Rouen, école primaire, dont vous aurez le plaisir d'entendre Prosper, qui est en CM1. Voilà. Effectivement, ça fait quelques temps que le CM1 n'est pas... voilà, hein, ça fait longtemps. Bref, donc le haïku avec Prosper. On aura le plaisir de retrouver Loïc, aujourd'hui, notre envoyé spécial direction Canteleu, pour nous annoncer les premières mesures, ou les dernières mesures surtout, du Premier ministre après son allocution de cet après-midi. Et on terminera cet entretien, gros entretien en tout cas, gros échange, grand échange avec justement nos invités du jour. Là, on va parler presse régionale quotidienne, presse quotidienne régionale, avec Anne Boucher, qui fait partie, qui est salarié au sein du Paris Normandie, qui est journaliste et qui est également au sein du Syndicat National des Journalistes, ainsi que Christophe Mulot, qui lui est également ouvrier imprimeur au sein du Paris Normandie et aussi au sein du SILPAC CGT. Voilà, deux représentants syndicalistes avec qui on pourra parler de la situation pas très réjouissante du Paris Normandie en ce moment là, après une déclaration au tribunal de liquidation judiciaire depuis ce 21 avril. Voilà, on espère vraiment, et on est de tout cœur avec eux, pour que ce quotidien reste en place, qui est effectif et qui a été fondé depuis 1944. C'est pour vous dire qu'il est important de soutenir des institutions comme celle-ci. Allez, en tout cas, puisque vous avez bien compris, aujourd'hui, on lâche rien, on est là, on est présent, on est opérationnel, et ça, ça fait plaisir, même vous. Je sais que vous avez peut-être envie de retourner soit faire des manifestations ou aller faire des marches pour le climat. Eh bien, en tout cas, allez, ça, ce sera dédicace pour vous toutes et toutes, chers amis militants. On va commencer cette petite reprise en fanfare de ce Blabla Mix avec HK et les Saltimbanks. Si je vous dis on lâche rien, bah voilà, on est là, on est ensemble en tout cas, et ça, c'est sûr, c'est sur le mix des cultures.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place. On n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace. On n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeur ouvrier. Paysans, immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser. Faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien. 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 Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est con, mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond, y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. 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 On lâche rien, 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 on lâche rien.
Mais oui, il est important de ne rien lâcher. En tout cas, solidarité oblige. On est là, on est ensemble, on est sur cette même planète. Donc les amis, passons un temps constructif, intelligent, réfléchissons un temps soit peu pendant cette période, même si, on le sait, vous êtes et vous avez envie de refouler le bitume et tous ensemble pour justement aller vous concerter, aller soutenir. Alors, je pense que si vous allez dans la rue, c'est pas forcément pour soutenir l'État, mais en tout cas, pour aller surtout manifester votre mécontentement ou votre soutien, surtout au milieu hospitalier, ainsi que les éducateurs, les éducatrices, etc. etc. Enfin voilà, à l'instant, c'était HK et les Saltimbanks. On lâche rien sur le mix des cultures. Ah, je me suis trompé de petite tranche, mais vous inquiétez pas, on est là, en tout cas, de retour sur HDR et Principe Actif. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de plaisir hein, pour cette petite période. Beaucoup de plaisir. L'aurons-nous aujourd'hui avec notre chère Elvire. Bonjour Elvire, comment vas-tu ?
Bonjour Romain, oulala, tu me colles la pression, je vais comme le temps de ce matin, alors j'espère que tiens, là, ça se lève un petit peu, mais enfin bon, voilà, le temps a été un petit peu maussade, je te jure, je vais faire au mieux, mais je suis pas sûre d'apporter beaucoup de plaisir, comme tu l'as dit, je pense que ça va être autre chose.
Beaucoup de réflexion, en tout cas, on en est persuadé.
Allez. On en est à J+44, ou alors à J-14, faut voir, et il était une fois. Thank you.
Allô, Elvire ?
Oui, moi j'ai un peu de friture, alors j'espère que c'est bon. De temps en temps, on se perd. J'espère que ça ne va pas être votre cas. Donc, en tous les cas, j'ai bien entendu quand même les trois quarts de cette bande-annonce que je connais. On ne peut plus, on ne peut mieux. Et le seul mot d'anglais que vous avez entendu, c'est terminus. Et comment vous dire les frissons qui me parcourent ? Ben, moi, je pleure à chaque fois que je verse ma larme. Un chef-d'œuvre comme ça, c'est absolument inénarrable. Ça se vit. C'est une expérience. Ça fait partie de ces expériences de cinéma. Et je me souviens du jour où je l'ai fait découvrir à mes filles. La goutte d'eau qui tombe, la mouche, le quai, le regard, le blé, la goutte d'eau. Et mes filles de me regarder. Mais il se passe un truc dans ton film. Je me projette. Et quelle difficulté de se plonger sans ennemi visible. Si nous sortions là et que le virus se voyait, nous pourrions sans doute lutter un peu plus efficacement. Tiens, se projeter justement dans un monde sans images, dans un monde de sensations, d'écoute et d'autres perceptions. Pensez pour les malvoyants qui peuvent quand même, bon alors pas maintenant bien sûr, mais dès que nous serons déconfinés, qui peuvent quand même aller au cinéma. Bref, J-14 pour le déconfinement, vu sous cet angle, ou pour une partie du déconfinement, pour ceux qui ont pu entendre tout à l'heure Édouard Philippe. Vu sous cet angle, il n'y a pas de jeu de mots, l'horizon est légèrement différent. Vous la voyez la lumière ? Vert à moitié vide ou à moitié plein ? Qui c'est qui joue l'homme à l'harmonica ? Alors ça, c'était l'un des films du jour. Et puis, ceux qui l'ont vu, ils verront des liens avec justement la période que nous traversons. Vous pouvez noter et chercher. Il était une fois dans l'Ouest, Sergio Leone. Un souvenir de monde ? Eh bien, je vous le donne, je vous le partage. Petite, nous allions au cinéma de quartier. C'était un cinéma qui faisait également théâtre. Vu mon jeune âge, je précise que les téléphones à pièces ornaient quelques coins de rue. De chez nous, au cinéma-théâtre, il y en avait probablement deux ou trois sur le chemin. Peu importe, il ne nous serait jamais venu à l'idée de sortir pour téléphoner. Happés, nous étions. Si mes filles, 40 ans plus tard, avaient du mal à comprendre ce rythme, nous, à l'époque, nous tremblions et tous nos pores jouaient de l'harmonica. Enfoncés que nous étions dans les fauteuils. C'était tellement extraordinaire que nous sommes restés dans la salle pour le revoir une deuxième fois. Petit détail, pour ceux qui l'ignorent, le film dure 3 heures. Donc, multiplier ça par 2, sans prévenir les parents, imaginez l'angoisse. Et nous, à gare, rentrions comme des zombies hypnotisés, puissance du cinéma. En fait, en regardant la presse ces derniers jours, je n'ai pas eu envie de revenir sur les polémiques des médecins malgré eux, ni non plus sur les guerres de chapelle intestine du « c'est moi qui connais le meilleur remède, non c'est moi », ni dans celui qui est la plus grosse. Alors les masques que tu as réservés puis volés, puis finalement qui ne sont pas aux normes, ça paie le moral des couturières des jours et des nuits après leur inlassable dévouement en leur disant « ça ne sert à rien qu'à faire joli ton truc, mais on a du mal à respirer derrière ». Non, je n'avais pas envie. Le ciel était gris, j'étais là, derrière ma fenêtre encore, avec seule mon imagination pour échappatoire et quelques souvenirs. Elle a bien turbiné, puis je l'ai laissé s'évaporer, s'abandonner au rien. Ça tombe bien, chez l'un de nos confrères, il y avait un vrai sujet avec plusieurs éminents invités sur la méditation. Alors j'ai relu un bout de Vendredi ou La vie sauvage, Michel Tournier. L'avantage des tempêtes, c'est qu'elles vous libèrent de tout souci. Contre les éléments déchaînés, il n'y a rien à faire. Alors on ne fait rien, on s'en remet au destin. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Nous ne sommes pas très habitués à ne rien faire dans cette société où il est souvent préférable de brasser du vent que de laisser l'ennui semer des lotus. On peut commencer par se poser en prenant ou pas la posture du lotus et se connecter à ce qui est. Être présent sur ce moment qui est là, maintenant. Comme quand on regarde le Sergio Leone et qu'on entend la mouche, qu'on voit la goutte d'eau, qu'on voit les regards. Être juste là, maintenant, observer sa respiration. L'air qui entre et l'air qui sort, les sensations que ça provoque. Sans se mouvoir, on réalise alors que nous sommes capables de faire beaucoup en ne faisant rien. Et c'est à ce moment-là que la magie opère. L'ensemble de nos instincts et de nos capacités sont ouverts, disponibles. Quand nous pousserons la porte vers le monde extérieur, demain ou dans 14 jours ou un peu plus, juste pour aller prendre cet air du dehors et que nous interrogerons sur la dangerosité de l'autre pour nous-mêmes, nous serons un petit peu plus connectés à nos sens et donc à même de répondre à cette situation inédite. Autant je déteste les injections contradictoires, c'est extrêmement fatigant. Autant celle-ci est merveilleuse parce qu'elle est en réalité en complet accord. Souvent, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Vous êtes débordé ? Arrêtez-vous. Vous irez bien plus vite après, c'est incroyable, sans vous en rendre compte. J'espère que vous aurez compris le piège parce que ça n'a rien à voir avec « on ferme les restaurants et on ouvre les cantines ». La différence est assez subtile. Mais réel. Et puisque nous en sommes à surfer sur la toile pour nourrir nos esprits, c'est l'heure d'allier l'utile à l'agréable. Cherchons des films souvent familiaux, qui nous tendent leur poésie. Par exemple celui-ci, La Tortue Rouge, de Michael Dudok de Witt. À travers l'histoire d'un naufragé sur une île déserte tropicale, peuplée de tortues, de crabes et d'oiseaux, et vous pouvez chercher des images, La Tortue Rouge raconte les grandes étapes de la vie d'un être humain. Et là, je ne sais plus, on est perdu, j'entends plus rien, j'espère que vous m'entendez. Dites-moi, Romain, es-tu là ?
Oui, bien sûr, nous sommes là.
Oui, t'es là. Bon, super, c'est important quand même de s'entendre à la radio. Vous l'aurez compris, je vous ai choisi aujourd'hui des bandes-annonces où le son pèse presque plus que l'image. Pas maligne, la fille ? Mais faites un truc, vous les voyants, ouvrez vos yeux en grand, ça peut être utile et je vous assure, parmi tous les films que je vous cite, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui méritent d'être mis à la poubelle, mais vraiment, ceux d'aujourd'hui, par un temps comme celui-ci, nous redonnent le sens du temps, le sens du rythme. Et sur ces désirs à assouvir, parce qu'on parlait de plaisir en entrant, je vous laisse écouter le mix des cultures. C'est le premier pas vers une société pleine d'humanité, de bienveillance et de différence. Alors s'il vous plaît, faites-moi plaisir parce que je le mérite. Prenez soin de vous. Et quittons-nous sur « On Earth, as it is in heaven », sur Terre comme sur le paradis, par le dieu de la musique de film, Ennio Morricone. Je vous jure, c'est l'un des dieux, oui, il y en a plusieurs, de la musique de film.
Le dieu, comme disait notre cher Elvire il y a quelques instants, le grand, le seul, l'unique Ennio Morricone, à l'instant avec le titre « On Earth As It ». Is in even. Voilà, voilà. Faut prendre le temps, hein, qu'on n'est pas forcément habitué. Il faut prendre le temps. Vous êtes sur le mix des cultures, The Mix of Culture. Welcome à toutes et à tous. Vous êtes sur Principe Actif et Radio HDR.
Le blabla mix sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
Continuons dans notre émission Blabla Mix aux alentours de 17h22 à l'instant avec notre reporter toujours là, toujours frais, toujours pimpant, Monsieur Lo. Monsieur Lo, Monsieur Loïc, comment on peut t'appeler est-ce que tu as changé de nom depuis ce confinement?
Non, toujours pareil. D'abord, bonjour Romain. Et puis, bonjour à toutes et à tous, les auditrices, auditeurs du Mix des Cultures, que vous soyez bien évidemment sur la région hébreuxienne, mais aussi à Rouen.
Exactement. Bonjour à toi, mon cher Loïc. Alors, ça y est, les dernières décisions du Premier ministre sont tombées, du gouvernement sont tombées. Il paraît que, ça y est, on ne pourra pas compter sur des festivités, sur des festivals tout l'été.
Exactement, puisque c'était un des discours les plus attendus pour cette semaine, avec en effet les grandes lignes qui ont été dévoilées il y a encore quelques dizaines de minutes par le Premier ministre Édouard Philippe lors de cette rencontre à l'Assemblée nationale. Une levée en effet progressive du confinement qui va débuter à partir de cette date du 11 mai, et donc énormément d'informations qui sont, on va dire, non pas surprenante mais confirmée, puisque plusieurs fuites ont eu lieu déjà sur les jours précédents, ont été évoquées dans différents médias nationaux dont France Info, et qui ont donc été confirmées aujourd'hui par le Premier ministre. Alors en effet, tout d'abord sur ce port du masque, on a énormément parlé du coût de ce masque. Combien va-t-il coûter? Entre 2, 5 euros voire 15 euros suivant de masque, si c'est un masque FFP1 ou FFP2, savoir aussi qui en sera bénéficiaire. Alors on parle évidemment, raison gardée, que les masques, en tout cas FFP1, les premiers masques seraient évidemment à usage de l'ensemble de la population, et les masques dits FFP2 seraient réservés au personnel hospitalier, donc tous les personnels évidemment de soins, que ce soit dans les hôpitaux, mais aussi dans les EHPAD, et également aussi les personnels de soins qui exercent à domicile, chez les personnes âgées par exemple, mais aussi tous les personnels travaillant, c'est-à-dire les ouvriers, qui seraient en contact assez régulier avec d'autres personnels, avec évidemment des confinements qui seraient un petit peu plus difficile à, pas des confinements, mais des règles de sécurité, pardon, un petit peu plus difficiles à mettre en œuvre. Donc voilà, il y a en effet ce sujet central du port du masque qui a donc été rendu obligatoire en ce qui concerne les scolaires pour donc les collégiens qui devront obligatoirement être munis d'un masque. Ce n'est pas le cas évidemment pour les plus petites sections, vous l'aurez imaginé, c'est un peu difficile de faire porter un enfant à un masque et même d'ailleurs de lui inculquer les gestes, évidemment de garder la distanciation d'un mètre, de ne pas se toucher, donc ça veut dire de ne pas jouer dans les cours de récréation, ce qui pourrait paraître évidemment un petit peu difficile. Évidemment, cette mise en place qui aura lieu progressivement dans le domaine scolaire. Alors, on parle évidemment des petites sections qui reviendront à partir du 11 mai, donc des maternelles. Et puis, ce sera progressif avec un petit peu plus tard les collèges, à peu près vers le 18 mai. Et puis, les lycées professionnels, je le précise, qui pourront reprendre à partir de début juin. Alors, comment se ferait justement c'est ce déconfinement au niveau scolaire? Eh bien, ce serait donc à la charge et aux soins des différentes maires, des différentes mairies, de mettre en place ces différents de déconfinement en respectant évidemment toujours les gestes de sécurité. Donc on parle environ entre 10 et 15 élèves par classe maximum, donc c'est-à-dire en gros un par table ou un toutes les deux chaises, avec des roulements qui seraient pour évidemment les cantines scolaires qui seraient ouvertes, et puis aussi lors des temps de pause, avec des décalages également aussi à l'entrée et à la sortie scolaire. Donc ça, évidemment, ce sont pour les événements scolaires, donc en effet rentrée progressive à partir du 11 mai jusqu'à début juin pour les cours et les maternelles, élémentaires et puis collège, lycée. concerne la partie professionnelle, alors là, c'est évidemment un des points centraux et qui va évidemment, puisque le déconfinement, on va dire théorique, a lieu le 11 mai, mais le Premier ministre, Philippe, a tout de même précisé que si les conditions étaient réunis d'ici le 11 mai, ce confinement pourrait également aussi être reculé jusqu'au 2 juin. Donc on va dire que les prochains jours sont vraiment un test à grandeur réelle de savoir si ce 11 mai sera donc officiellement cette date de déconfinement. Donc pour tous ceux qui travaillent déjà, en effet le télétravail doit être maintenu partout où c'est possible, au moins dans les 3 premières semaines, donc incité et a dit le Premier ministre lors de ce discours. Donc en effet, le télétravail, ce sera vraiment pour les entreprises qui le peuvent, modèle qui sera en tout cas à continuer, à poursuivre pour les prochaines semaines, donc d'ici évidemment les grandes vacances, et quid évidemment de ceux qui ne peuvent pas utiliser le télétravail. Donc on pense évidemment à tous les ouvriers qui sont obligés d'être présents sur site de fabrication. Et bien là, il y a différentes solutions qui sont évoquées, puisque évidemment pour se rendre jusqu'au lieu de travail, il faut aussi voir par rapport au transport. Alors si vous prenez vraiment votre propre voiture, ça pose moins de problèmes, puisqu'en effet vous êtes seul, voire deux maximum, avec une personne à l'arrière dans votre véhicule. Par contre, pour les personnes qui devront prendre les transports en commun, le Premier ministre a annoncé donc la mise en place en effet de rotations un petit peu plus fortes des transports en commun, évidemment sur Paris, la région parisienne, mais aussi dans les grandes agglomérations françaises de la métropole, d'une environ potentiel de 70%. Donc, on va dire, de transport en commun, et qui sera mis en place jusqu'à un retour progressif à 100%, évidemment, puisque plus il y aura de transport, plus il y aura de rotation, évidemment, il y aura moins de personnes dans chaque rame, que ce soit évidemment de métro, mais aussi de bus. Donc voilà, ça risque d'être, en tout cas, déjà des entreprises ont opté ici, en région Normandie, pour des horaires décalés, c'est-à-dire que les ouvriers de certains secteurs travaillent un petit peu plus tard ou un petit peu plus tôt par rapport à d'autres salariés de cette même entreprise pour éviter justement des flux assez importants et pour limiter justement les contacts et la propagation du Covid-19 au sein des différentes entreprises, qu'elles soient agroalimentaires ou dans d'autres secteurs évidemment.
Effectivement, et la question du masque, ils ont assuré qu'il y aura des masques partout, qu'on pourra en acheter, pharmacie, grande distribution, ou c'est encore assez vaseux, encore assez instable cette décision et cette confirmation surtout, hein, puisque c'est vraiment une des difficultés que les citoyens, hein, que les habitants ont, c'est de récupérer des masques et d'acheter des masques.
Alors tu as tout à fait raison, et le double discours malheureusement gouvernemental a ajouté un petit peu plus de compréhension sur ne serait-ce que l'utilité de ce masque, puisque de nombreux représentants comme Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, avait dit en tout début de pandémie que le masque ne servait à rien puisque c'était qu'une simple grippette et que... il fallait savoir comment mettre un masque, et quelques semaines plus tard, on nous dit que finalement, le masque sert, puisque cela permet de réduire justement le contact avec le Covid-19, si l'on devait voilà, partager, oui. Que ce soit sur un lieu de travail ou ailleurs, évidemment, partager une pièce, entre autres. Donc voilà, disons que les différents discours et... retour rétro-pédalage qui ont été faits depuis le début du confinement ont rajouté justement soit de la part de la population une certaine forme de défiance, ou alors une certaine forme d'interrogation de savoir finalement est-ce qu'il est utile ou pas. Alors d'un côté on nous dit qu'il y a énormément de masques qui ont été commandés, des millions par millions qui ont été commandés entre autres par la Chine. Parallèlement, il y a, comme c'est le cas, la région Normandie, par exemple, qui a acheté aussi sur ses deniers propres des masques, comme d'autres régions, d'autres agglomérations. C'est le cas aussi la métropole qui a fait une commande de 500 000 masques. Donc voilà, les institutions au niveau local, en effet, n'ont pas attendu les décisions gouvernementales pour prendre d'une certaine manière un petit peu les devants et pour pallier sans doute et clairement au manque de masques. Alors, en effet, comme tu l'as dit, Romain, où va être disponible ce masque et comment? Alors, d'après les premières informations du Premier ministre et du gouvernement, les masques seront disponibles en pharmacie et dans les bureaux de tabac. à savoir, et là la question évidemment ce sera le 11 mai qui sera décisif pour évidemment le nombre qui seront en vente, est-ce qu'il y aura en effet assez, est-ce que aussi tout le monde pourra se payer évidemment ces masques, puisque la fracture sociale elle est là, elle l'était en effet avec le scolaire, puisque malheureusement des personnes qui n'ont pas forcément accès à internet, donc ce sont des élèves, des enfants qui n'ont pas accès aux cours à distance, et là les masques en effet lorsque l'on parle, puisque les tarifs, je le précise, ne sont pas réglementés par le gouvernement, donc c'est-à-dire que vous pouvez vendre un masque à n'importe quel prix, il n'y a pas de barème officiel du gouvernement, ou du moins qui peuvent encadrer les prix, donc on parle en effet entre 2 et 5 euros pour les masques, les FFP1, et pour les masques qui sont un petit peu plus élaborés, on parle de 15 euros par masque, donc voilà, ça aussi c'est un sujet, est-ce que en effet tout le monde va pouvoir se payer un masque, d'où cette solidarité qui s'est mise en place dernièrement, solidarité masque, pour offrir en effet des masques gratuitement à une frange de la population qui n'aura peut-être pas forcément les moyens de pouvoir s'en acheter régulièrement d'ici justement la phase de déconfinement qui risque de durer sans doute aussi plusieurs semaines.
Exactement. En tout cas, merci beaucoup mon cher Loïc pour tous ces retours d'informations après l'intervention du Premier ministre en cet après-midi. Bon confinement à toi, du coup pas de festoche, hein. Désolé Loïc.
Oui, je l'ai appris aussi, en effet, pas de festival ni de concert jusqu'au 1er septembre. On s'en doutait un petit peu, puisque officiellement, la date de la mi-juillet avait déjà été avancée par le Premier ministre. Donc, on le savait très bien que déjà la fin de cette saison était pliée. Bon, là, en effet, on a eu confirmation aujourd'hui que pour l'ensemble des festivals, que ce soit en juillet ou en août, en effet, il y aura un festival. Il faudra attendre à nouveau la rentrée de septembre pour pouvoir aller voir évidemment vos artistes en concert.
Effectivement, et comme le festival Arsonic du côté de Briouze dans le 61 qui était un peu sceptique, hein, puisque eux, leur festival se produisait normalement juste après le week-end du 15 juillet, hein, le week-end juste après, ils étaient encore dans l'attente de se dire mais attendez, comment on peut proposer notre festival alors que la plupart sont annulés, reportés, donc voilà, en tout cas maintenant, voilà, pour vous toutes et tous, vous avez cette réponse. En tout cas, force à vous toutes et tous. Et voilà, ça viendra, je pense, peut-être des festivals en ligne, comme on a eu le plaisir de retrouver ces 15 derniers jours, ces 3 semaines même passées. Merci mon cher Loïc, bel après-midi à toi, belle soirée surtout.
Si je peux me permettre, oui. Juste 30 secondes. Puisque tu vas recevoir justement des différents représentants du journal du quotidien Paris Normandie, je voulais juste revenir sur une information, puisque malheureusement, enfin j'espère que évidemment le Paris Normandie ne va pas connaître la même situation que France Antilles, mais pour vous dire que voilà, il n'y a pas que le Paris Normandie qui est dans une situation très fragile au niveau de la presse française, puisque il n'y a pas si longtemps que ça, on remonte au 1er février 2020, donc vous voyez, c'est semestre de cette année, France Antilles qui titra « Merci » à la une de son édition du samedi 1er février 2020. C'était la dernière publication du quotidien du groupe Antilles-Guyane après la mise en liquidation judiciaire. Et il y avait 235 salariés, donc quasiment autant de salariés que le Paris Normandie lors de son ultime plan social qui a été dressé récemment. Donc voilà, ça montre que la presse aussi traverse malheureusement des situations difficiles, et j'espère évidemment que le Paris Normandie ne rencontrera pas la même fin que France Antilles précédemment.
Effectivement, on l'espère également. En tout cas, retrouver dans quelques instants avec nos deux journalistes et justement imprimeur hein, du Paris Normandie dans une poignée de secondes. On va se quitter tout de suite avec le titre que tu as choisi aujourd'hui, c'est Victoria Monette. Une petite sucrerie plutôt sympa, mon cher Loïc. Le titre,
exactement.
Dive. C'est ça. Ça doit être ça. Allez, tout de suite. Merci, mon cher Loïc. À très, très bientôt. Prends soin de toi. Et tout de suite, on continue musicalement parlant avec Victoria Monette. Le titre, Dive, à l'instant sur Mix des Cultures. Promise I'm gonna make it rain for you. Something like an ocean wave on you. If you let me open up to you, kiss below the line. I wanna see what your head game like. Do you know what you're doing? Is your neck game tight? Do you know how to use it? Have a long conversation with me. I talk back, baby, we can get deep. I wanna see what your head game like. Do you know what you're doing? Is your neck game tight? Do you know how to use it? Have a long conversation. Petite sucrerie proposée en ce jour par notre correspondant Mr Loïc, que vous pourrez retrouver prochainement dans le Campus Mag tous les mercredis à partir de 17h et dans l'émission culturelle 911 qui fait un peu l'état actuel de la vie culturelle tous les vendredis à 18h. Tout de suite, c'était Victoria Monette, le titre Dive à l'instant sur le mix des cultures.
Le Blabla Mix, 99.1 et 102.4 FM.
Faire danser ses doigts, murmurer et chantonner le rythme des mots prospères.
Projet Poésie, réalisé dans le cadre d'un jumelage avec les élèves de l'école Marot et la compagnie Saëla, Nicolas Lelièvre, Grégoire Landais et Céline Gouel.
Le Blabla Mix, 99.1 et 102.4 FM.
De retour sur le mix des cultures, vous le savez bien, entre Principe Actif et Radio HDR, on est là, on est ensemble, bien entendu, et on continue surtout ensemble sur le soutien, sur des initiatives de solidarité, sur le milieu en ce moment qui est très compliqué. Alors quand je dis milieu, là je vais plus me tourner vers l'aspect médiatique, vers l'aspect de la presse régionale quotidienne. En l'occurrence, il y a un boss qui est là en ce moment depuis les années 1940. Même depuis les années 40, ce paquebot de la presse régionale est là, présent pour nous donner de l'information, pour savoir ce qui se passe au plus près de chez nous. J'ai bien sûr en tête le Paris-Normandie, et pour parler de la situation du Paris-Normandie aujourd'hui, nous avons grand plaisir à recevoir Anne Boucher, qui est journaliste au sein du Syndicat National des Journalistes. Bonjour Anne.
Bonjour.
Et nous avons aussi Christophe Mulot, qui est lui ouvrier plutôt à l'impression au Paris-Normandie et faisant partie du SILPAC CGT. Bonjour Christophe.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Aujourd'hui, avec vous, on va parler de la situation du Paris-Normandie. On l'a entendu la semaine dernière, depuis ce 21 avril, pour la troisième fois de son existence, le Paris-Normandie est en liquidation judiciaire. Comment ça se passe aujourd'hui, le moral des troupes, avec ce confinement, avec cette remise en question de toute la structure? Comment ça se passe pour vous en ce moment?
Je crois qu'on ne peut pas dire que ça se passe bien. C'est vrai que les gens... On a tous pris un coup de massue sur la tête, hein, c'est peu le dire. Les gens sont découragés parce qu'on avait un nouvel actionnaire depuis 2 ans qui nous suivait et on pensait qu'il allait nous suivre. Et puis malheureusement, suite au Covid qui a précipité quand même un peu les choses, et on a découvert que notre actionnaire, en quelques jours, nous remettait au tribunal de commerce et puis souhaitait liquider l'emprise avec une poursuite d'activité. Voilà.
Je vais reprendre les mêmes mots que Christophe, ça a été le choc en fait, quand l'annonce a été faite officiellement un samedi en plus. Et dans le contexte du confinement, c'est très compliqué pour les collègues parce que la plupart en fait sont chez eux en télétravail, sauf à la rotative évidemment où télétravail n'est pas possible. Ce qui fait que c'est compliqué parce qu'on peut échanger avec eux que par mail, par téléphone et ils aimeraient bien qu'on soit pouvoir être tous ensemble pour pouvoir discuter. Donc il y a cette double angoisse en fait, c'est le fait d'être tout seul et de se dire est-ce que dans 3 mois j'aurai encore un travail.
Oui, parce que c'est ça, aujourd'hui vous avez 3 mois, hein. Quand je dis vous, c'est bien sûr Paris-Normandie, vous avez 3 mois pour retrouver un repreneur. Alors est-ce que déjà pour l'instant vous avez des pistes qui sont proposées ou est-ce que déjà certaines personnes et certaines entreprises vous ont contacté?
Non, officiellement non, il n'y a absolument rien de concret. Il y a une data room qui a été ouverte auprès du tribunal de commerce jusqu'au 22 mai. Les repreneurs éventuels vont pouvoir déposer des dossiers. Mais là, officiellement, à l'heure actuelle, nous n'avons aucune information. Donc on peut supposer que, comme il y a quelques années, le groupe Rossel via la Voix du Nord pour être de nouveau intéressés, comme ils étaient déjà intéressés en 2012 et en 2017. Maintenant, rien de concret, d'officiel à l'heure d'aujourd'hui.
C'est encore un petit peu tôt parce que même si tout va aller très vite, comme décrit la Data Room, et tout, donc c'est l'espace virtuel où les repreneurs intéressés peuvent avoir accès aux documents qui les finances de notre entreprise et tout ce qui fait l'entreprise en fait pour pouvoir monter un dossier. Donc ils ont jusqu'au 22 mai, c'est très très rapide. Et on a pour l'instant aucune information officielle. Tout ce qu'on sait, c'est que semble-t-il quand même il y a quand même des repreneurs, des gens qui sont intéressés. Ça nous donne un petit peu d'espoir parce que vu le contexte de la crise sanitaire et même de la crise économique qui nous pend au nez, au début on s'est dit mais qui va pouvoir se projeter pour se dire je vais racheter un journal.
Alors, vous êtes, je dirais, une grosse équipe. Hein. Vous êtes environ, grosse équipe, ça s'entend. Hein. Vous couvrez quand même toute la région. Vous êtes à peu près 240 salariés, sans compter tout ce qui est pigiste, hein, c'est-à-dire que ce sont des journalistes qui ne sont pas salariés du Paris-Normandie, mais qui réalisent également des articles, qui sont sur le terrain également pour faire des retours.
Je peux juste préciser, en fait... On a donc il y a des journalistes pigistes qui sont même si en fait on est quand même qui sont salariés quand même de Paris Normandie, mais on a aussi ce qu'il ne faut pas confondre, c'est les correspondants locaux de presse. C'est peut-être de ça dont je voulais parler, où en fait ce sont un vivier de 250 personnes qui sont sur tout le territoire de la Seine-Maritime et de l'Eure et puis et un petit peu autour, qui eux sont là justement pour nous alerter sur tout ce qui se passe dans les petites communes. C'est aussi à toutes ces personnes-là qu'on pense. Et Christophe aussi de tous les porteurs.
Tout à fait, tous les porteurs, les qu'on appelle les petites mains, les travailleurs de la nuit, sans lesquels on ne pourrait rien distribuer, rien vendre. Et bien sûr, eux, on ne les oublie pas et ils sont également dans une perspective de travail aussi. Puis on pense aussi bien fort à eux à l'heure actuelle.
En fait, on est 240, on va dire, salariés. Ça va être 210-215 pour la société éditrice de Paris-Normandie et puis 25 à peu près personnes pour la régie publicitaire qui est notre société filiale. Et puis, en fait, finalement, on a aussi tous ces correspondants, tous ces porteurs, toutes ces personnes qui travaillent aussi avec nous et qui sont aussi en attente d'informations. C'est pas uniquement... c'est quand même déjà beaucoup, 240, mais il n'y a pas que nous.
Ça touche vraiment plusieurs secteurs d'activité au sein de Paris-Normandie et de celles et ceux qui font ce journal, cette presse quotidienne régionale. Comment on finance un journal en région? Comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a que l'aspect publicitaire ou il y a d'autres moyens? Comment ça se passe?
Les entrées d'argent, ce sont évidemment la publicité, et puis c'est aussi beaucoup la vente du journal. Que ce soit par les abonnés ou la vente au numéro. Donc, c'est très important que les gens s'abonnent, surtout aujourd'hui, mais même tout le temps. Notamment de s'abonner, parce que ça permet d'être sûr d'avoir son journal tous les jours et puis d'avoir une régularité, nous, dans les revenus. Et puis sinon, c'est aussi la publicité, mais ça peut être aussi un accès aussi d'investir et de mettre de l'argent pour pouvoir développer l'entreprise.
Tout à fait. Et je rebondirai sur ce que dit Anne à l'heure actuelle. Probablement, on avait toujours une dette à rembourser qui était de 9 millions d'euros il y a 2 ans. On a réussi à rembourser environ 2 millions d'euros. Il en restait 7, mais avec le nouveau statut juridique que va avoir la nouvelle société, la dette va être effacée. Donc, la corbeille va être beaucoup intéressée, si je peux me permettre, ou le nouvel actionnaire qui va ses propositions éventuelles n'aura plus la dette à rembourser. Donc, on repartira de zéro. Et là, automatiquement, ayant plus de dette à rembourser, des échéances, qu'on prenne des échéances à 400, 500 000 euros, voire 1 000 euros d'échéances annuelles à rembourser l'année prochaine, n'ayant pas ces échéances, évidemment, on va être pérenne financièrement et on appelle pour pouvoir rebondir ce qu'on a su le faire, nous, en quelques jours, en créant une intersyndicale avec nos camarades du SNJ et nos cadres, notamment de pouvoir en dire quelques jours et puis de créer une dynamique et de s'adresser aux lecteurs, notamment à travers notre première une que nous avons fait samedi dernier dans le journal. Et on adresse les lecteurs, les politiques à s'investir pleinement dans le capital du journal, à ce que ça soit numériquement, mais plutôt sur la base papier. Que le numérique, certes, c'est intéressant, mais malheureusement, financièrement parlant, ça ne rapporte pas assez pour que ça soit viable. Donc, on a surtout, on invite tous les lecteurs à s'abonner massivement, et c'est comme ça qu'ils pourront nous aider principalement financièrement.
C'est un moyen pour eux aussi de montrer leur attachement à Paris-Normandie, parce que c'est ce dont on a besoin. Et je peux vous dire aussi, je pense qu'auprès des salariés, la communauté a lancé un appel à nos abonnés occasionnels, et on a lancé aussi un appel aux élus Poly Territoire ont montré leur soutien. On a reçu pas mal de marques de soutien par mail ou sur les réseaux sociaux. Et les salariés, ils ont besoin aussi d'entendre ça, ils ont besoin de lire ça parce que ça les rassure aussi sur le fait que Paris Normandie a de l'avenir et sur le fait qu'il faut qu'on continue à être mobilisé, qu'on continue à faire le travail avec motivation parce que Paris Normandie va survivre à tout ça.
Je dirais peut-être que même perdre un journal quotidien régional là sur notre territoire serait une catastrophe, je pense.
Bien évidemment, en termes de pluralisme et tout ça, et sachant que c'est un des seuls, c'est le seul quotidien normand qui est fabriqué par des Normands, imprimé par des Normands et qui n'est absolument pas délocalisé. Là, donc c'est quand même un média qui est sûr, de qualité, avec des salariés qui sont pleinement investis dans leur travail, en termes de qualité des contenus et tout ça, effectués par les journalistes notamment, et puis les correspondants et divers. Donc là, ce serait vraiment de perdre cela. Maintenant, nous sommes tout à fait confiant sur le fait qu'il y aura un repreneur, certes, parce qu'on pense que Paris Normandie ne disparaîtra pas, mais sous quelles conditions, sous quelle forme, est-ce qu'il y aura des pertes de salariés, des licenciements et tout ça, c'est notre plus grosse crainte, parce que voilà, il faut quand même avoir des équipes qui restent mobilisées, et puis il faut des gens pour pouvoir travailler et sortir un produit de qualité. Donc ça, c'est là-dessus qu'on est extrêmement vigilants, nous tous, et on sera très attentifs à la qualité des contenus des repreneurs.
Et pour revenir sur le début de la réponse, sur le fait que ça serait inconcevable qu'un titre de presse quotidienne régionale disparaisse, on est dans un contexte aussi où, avec justement la crise du coronavirus qu'on est en train de subir et tout ce qui est lié à ça, on est vraiment dans un contexte où, justement, avec les fake news qu'on découvre, qui pullulent sur les réseaux sociaux, vraiment une presse libre et indépendante et qui a les moyens de travailler, c'est très très important. On est dans un contexte où les gens ont besoin justement de pouvoir fier à des journalistes professionnels qui peuvent se fier à une presse de qualité pour avoir justement les bonnes informations et ne pas se laisser avoir par toutes les mauvaises les nouvelles qu'on peut découvrir sur les réseaux sociaux et qui pullulent depuis des semaines avec cette crise et qui déjà auparavant existait sur d'autres sujets. Mais là, ce contexte, c'est évident que c'est nécessaire.
Là, en pleine crise, on le voit bien. Notamment, on a eu beaucoup de témoignages de lecteurs qui nous remerciaient parce qu'on était le seul logiciel qui recevait tous les jours dans leur boîte aux lettres, que certains n'ont pas accès, par exemple, à Internet ou ont des difficultés. Le fait, par exemple, de fournir des attestations qui étaient découpées au CISO dans le journal, voilà, parce que certains n'avaient pas d'imprimante ou n'avaient pas de connexion Internet, tout ça, les gens ont été bien contents d'avoir leur journal tous les jours, quoi. Donc, on crée véritablement un lien avec la population.
Alors en plus, ces dernières années, vous avez quand même fait évoluer la structure avec justement votre site internet qui explose, je dirais, au niveau des connexions. C'est ça qui est assez paradoxal, peut-être moins de lecteurs par papier, mais beaucoup plus sur l'outil informatique, l'outil numérique, mais pas forcément avec plus d'abonnés.
Alors, on a quand même plus d'abonnés sur le site internet. Ça a bien augmenté là depuis notamment le début de la crise parce que les gens ne peuvent pas forcément sortir pour aller acheter le journal, donc ils s'informent sur internet. Donc ça fonctionne bien. On a mis en place en plus des offres spéciales pour que les abonnements numériques soient moins chers. Mais comme Christophe, ça ne rapporte pas encore suffisamment pour qu'on s'en sorte. Mais ça prouve justement que les internautes et les lecteurs sont en demande d'informations et d'informations de qualité. Et donc, c'est pour ça qu'ils se rendent massivement sur notre site internet. Et la rédaction s'est mobilisée pour pouvoir continuer à produire, que ce soit sur le journal papier ou soit aussi sur notre site internet. La plupart des journalistes sont ce qu'on appelle bimédia, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour les deux supports. Mmh.
Aujourd'hui, puisqu'il en est de la survie aussi du quotidien du Paris Normandie, comment les citoyens, les citoyennes peuvent contribuer à ce que le Paris Normandie reste en place, reste aussi actif et continue de traiter l'information comme il le fait ?
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, notamment déjà en s'abonnant. Ensuite, on appelle aussi toutes les collectivités qu'on peut avoir régionales qui impriment bien souvent des titres, leurs bulletins, leurs informations et tout ça, qui font ça dans entreprises, parfois qui sont externalisées au niveau du département. Donc voilà, nous, on est en capacité de tour machine, on est ouvert, donc ils peuvent tout à fait s'investir au-delà de l'aspect économique, c'est-à-dire nous donner des tourmations en faisant des produits, en faisant imprimer certains de leurs produits, publications chez nous, sous réserve bien sûr qu'on soit en capacité de le faire techniquement. Mais voilà, ce sont des idées que les collectivités peuvent nous apporter, de l'argent qu'ils peuvent nous apporter, au-delà du soutien médiatique, parce que l'argent c'est aussi le nerf de la guerre, et que les lecteurs, que les gens, les Normands, qui souhaitent qu'on soit là encore demain, qu'ils aient une information pluraliste et de qualité, bien, qui s'abonnent voilà, massivement, et ce sera la première mesure que les gens peuvent faire.
Et qui disent à leur entourage de s'abonner.
Bien évidemment.
Et les collectivités territoriales, ce qu'elles peuvent faire aussi, c'est reprendre des annonces et de la publicité dans le journal, parce qu'aujourd'hui, forcément, la publicité a énormément chuté. C'est ça qu'on arrive au tribunal une fois de plus, parce que toute l'activité s'est arrêtée. Alors, y a quelques types de commerces qui peuvent encore être ouverts, donc ce qui fait qu'ils continuent à faire un peu de publicité. Mais c'est vrai que les journaux... Aux collectivités territoriales, aux départements, aux régions, aux communautés de communes, qu'elles n'hésitent pas à prendre contact avec nos commerciaux pour pouvoir vendre un peu de publicité dans le journal. Ça leur fera une bonne mission, le soutien qu'ils apportent à la presse, et puis nous, ça rapportera un peu plus d'argent dans notre trésorerie, parce que là, on en a besoin.
Combien le Paris Normandie a perdu avec ses annonceurs là, juste pour ces mois de confinement, puisque c'est le printemps et c'est une forte hausse d'activité en cette période de printemps.
Oui, hausse d'activité, hausse aussi de tout ce qu'il y avait en termes de foire d'exposition, foire extérieure et tout ça. Donc c'est les partenariats que nous avions qui ne seront pas faits. Donc là, je crois qu'en sur quelques mois, là, on parle de près d'un million d'euros de publicité en moins, toutes choses confondues. Donc c'est vrai que c'est assez important, quoi. Et là où on peut en parler, parce que la question n'a pas été posée, mais je me permets d'intervenir dessus, c'est qu'un actionnaire qui se disait redresseur des entreprises, c'est Jean-Louis Louvel, hein, pour ne pas le nommer. Et c'est vrai qu'on pouvait quand même, nous, on espérait quand même qu'un actionnaire qui avait les épaules aussi solides, qui est président d'un groupe qui pèse 286 millions d'euros, avec près de 1000 salariés, aurait pu être là pour nous soutenir ces quelques mois de difficultés. Et il jette l'éponge, elle n'attendait pas, et puis voilà, quoi. Et par contre, avant de jeter l'éponge, avant de mettre les comptes au tribunal de commerce et puis de laisser plein de petits artisans avec facture impayée, il a quand même fait remonter près de 4 000 euros dans ses diversités et comptes personnels et loyers, quoi. Donc ça, on peut quand même s'en étonner. Ça a été dénoncé au tribunal de commerce par notre avocate. Et on espère bien même récupérer ces sommes-là, qu'ils puissent nous les remettre dans notre trésorerie, parce que c'est la trésorerie qui nous manque à l'heure actuelle pour pouvoir poursuivre notre activité et que le tribunal de commerce puisse étudier des offres de repreneurs et les améliorer dans le temps, quoi. Donc ça, c'était quand même une chose à souligner quand même. Et voilà, on est quand même dépité par son comportement, quoi.
C'est vrai qu'on est pressé par le temps, parce que même si on a une période d'activité de 3 mois, comme la data room, enfin la date limite de dépôt des offres, c'est fin mai, tout va aller très vite. Mais si on est dans un délai aussi court, c'est aussi parce que là, pour l'instant, la trésorerie de l'entreprise est très limitée. Et donc, que s'il y a des sommes d'argent comme celle dont vient parler de Christophe, qui peut être rebasculée sur notre trésorerie, ça nous permettra de gagner des semaines supplémentaires de temps pour pouvoir étudier les offres, que les preneurs fassent des offres intéressantes, des offres qui soient pérennes. C'est surtout ça dont on a envie. C'est avoir une offre qui nous permet de voir plus loin et de se dire qu'on ne risque pas de retourner au tribunal de commerce encore 2-3 ans, parce que les salariés, ils ne peuvent plus, et nous non plus, on ne veut pas avoir à revivre ça une fois de plus.
Oui, voilà, d'un aspect psychologique et social, c'est très compliqué de vivre cette situation-là, je pense. Mais cette somme d'argent, ces 400 000 euros, comme vous citiez tout à l'heure, Christophe et Anne, comment se fait-il qu'elle soit partie comme ça et que peut-être cette prise, cette vigilance n'a pas été faite avant ?
Bah écoutez, nous, on ne l'a pas su, parce que M. Louvel a quand même organisé, en prenant des contacts avec le tribunal de commerce préalablement, sans informer les institutions du personnel. Et donc, nous, on a découvert ça quand ça a été annoncé, in extremis. Et voilà, il avait préparé les choses, et ce sont des facturations de loyer, d'argent qu'il a remonté à son groupe. Voilà, la veille de déposer contre au tribunal pour cessation, liquidation judiciaire. Voilà. Alors donc, ça a été souligné, je vous dis, au tribunal par notre avocate. La représentante des AGS et le procureur de la République s'en est étonné. Bon, après, est-ce qu'il en avait le droit? Ça, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, c'est plus que cavalier quand même, parce qu'il a quand même parallèlement à ça mis en difficulté d'autres petites structures qu'on n'avait pas besoin, avec des factures impayées. Et voilà, et venant de quelqu'un qui se dit entrepreneur et proche des gens et humain, et voilà, on trouve ça plus que dommage. Et vraiment, on est vraiment dépité, on était vraiment déçus aussi, tous les sages déçus aussi de son comportement-là. Son comportement nous a abandonnés comme ça, pratiquement du jour au lendemain, alors que le premier rôle d'un actionnaire, c'est d'être là en cas de difficulté.
Et aujourd'hui, cet ancien actionnaire ne donne plus signe de vie, n'est plus dans le dialogue, en tout cas avec les équipes du Paris-Normandie ou de la SNIC.
Il a été présent à la réunion du CSE qui a annoncé la mise en liquidation. Il a été présent à l'audience du tribunal. Il a même organisé une visioconférence avec tous les salariés de Paris-Normandie pour expliquer la situation. Donc, il est quand même présent. Donc, après, ça nous permet justement de lui faire remonter ce genre d'informations pour dire d'accord, on a compris quelle était la situation dans notre entreprise, on a compris ce qui est en train de se passer, mais il faut que tout se passe dans les meilleures conditions et soit sûr que l'entreprise et que ses salariés ne se font pas berner dans cette histoire, pour rester poli.
On est d'accord. Est-ce qu'on peut faire aussi un petit tour, puisque voilà, on a envie de soutenir le Paris-Normandie, mais on a surtout envie, même si ce n'est pas juste du soutien, mais surtout de s'informer en local, d'aller voir un petit peu les informations que vous proposez au sein du Paris-Normandie. Quelles sont les formules tarifaires? Comment on s'abonne? Expliquez-nous tout. Voilà, très simplement, je pense que ça le fait.
Alors, il y a plusieurs offres. Il y a une offre numérique à l'heure actuelle que nos équipes proposent. Ça doit être de mémoire à peu près 1 euro tous les 3 mois.
1 euro pour 3 mois et ensuite, c'est 9,90 euros par mois.
Voilà, c'est ça. C'est une offre découverte. Nous, ça doit être à peu près l'offre pied. C'est environ d'une trentaine d'euros par mois, environ. Voilà, avec des tarifs préférentiels aussi. Et puis donc, ce n'est pas une somme exorbitante. On parle d'un euro et quelques par jour. Voilà, donc pour avoir une information pluraliste de qualité dans sa région, on peut pas dire que ça soit exorbitant non plus. Donc toutes nos équipes sont mobilisées à ce niveau-là, nos équipes d'abonnement et tout ça. Et comme on le disait tout à l'heure, ça soit le rôle des collectivités ou nos lecteurs ou futurs lecteurs, c'est de s'abonner massivement, numériquement s'ils le veulent, mais surtout au niveau papier, parce que c'est ce qui permet notre survie, c'est le papier. Et tous les investissements se font notamment dans l'entreprise et notamment sur le numérique, le font grâce à la vente du papier. Parce que quoi qu'on en dise ou peuvent en penser certaines personnes ou soi-disant bien informées, le papier n'est pas mort et il vit toujours et c'est tant mieux, ce qui permet notamment de poser l'information et de poser l'information par des gens qui ont le temps de la poser, former une information de qualité.
Pour s'abonner, il suffit d'aller sur le site internet de Paris-Normandie et tout en haut à droite, il y a le mot « abonnez-vous » sous un fond jaune et il faut cliquer là-dessus et après tout est expliqué.
D'accord.
Alors, c'est le 0-35-14-57-57, 0-35-14-57-57 pour ceux qui n'ont pas accès à Internet et qui préfèrent passer par un numéro de téléphone.
En tout cas, on sent bien une belle cohésion d'équipe au sein du Paris-Normandie. Les retours des lecteurs, vous avez du soutien des lecteurs. Quels sont les messages à peu près que les lecteurs vous envoient?
Bah, Christophe parlait tout à l'heure dès le début en fait, du confinement, on a eu pas mal de messages qui étaient souvent donnés d'ailleurs à nos porteurs pour nous remercier en fait, d'être le lien social dont on parlait tout à l'heure. Le fait que dans ces périodes compliquées où les gens, surtout des personnes âgées, se retrouvent seuls coincés chez eux, d'avoir le journal tous les jours, ça leur permet d'avoir toujours un lien en fait, avec la société et avec ce qui se passe autour d'eux. Et puis après, les autres lecteurs... ont mis des messages sur les réseaux sociaux pour dire que certains sont abonnés depuis très longtemps et qu'ils ne voient pas leur vie sans Paris-Normandie. Et on a aussi, d'ailleurs, j'en profite pour les remercier, c'est les clubs de la presse et de l'application de Normandie qui, dès le début, une campagne sur les réseaux avec le hashtag PassantPN, où les gens pouvaient laisser. Et il y avait surtout la campagne, c'est dire pour vous, un territoire sans son quotidien régional, ça serait quoi? Donc les gens mettaient différentes propositions, ça serait. La Normandie sans Étretat, je ne retrouve plus les autres idées. Peut-être que Christophe, tu t'en souviens?
Non, pas vraiment, mais ce que je peux ajouter là-dessus, c'est vrai que il y a des porteurs qui ont eu des dessins d'enfants. Enfin, c'est vraiment d'initiative depuis le début, et c'est sûr que d'avoir une information de qualité pluraliste, eh bien, il y a un coût. Voilà, c'est parce que derrière il y a des gens, c'est pas des robots. C'est pas des bouts sur Internet, c'est des gens qui ont été formés, qui ont fait des écoles, qui ont les moyens d'aller collecter l'information, la mettre en page, et puis de s'adapter à notre lectorat et de pouvoir lui expliquer le plus simplement possible ce qui se passe. Et puis, tout à l'heure, Anne parlait des fake news. Voilà, sur Internet, ça pollule. Il n'y a pas une seule fake news dans Paris. Au contraire, on démonte les fake news et on montre vraiment aux gens ce qui se passe réellement dans la vie, dans l'actualité.
Peut-être, pour finir, vous avez une vision du prochain Paris-Normandie, comment il sera dans 10 ans ?
Dans 10 ans, c'est trop loin, ça. On sera presque, en général, dans 10 ans. Tout heureux, nous, c'est que dans 10 ans, Paris-Normandie existe toujours, sans sa version papier et sur son site Internet, que ça soit toujours une marque de référence et encore plus, avec toujours des équipes motivées et que Paris-Normandie ait su se réinventer pour aussi s'adapter aux attentes de nos lecteurs.
Tout à fait, avec des hommes et des femmes derrière qui travaillent pour les Normands, leur information de qualité. Voilà, c'est comme ça qu'on voit le titre dans les prochaines années, sous la forme numérique et de papier, pour pouvoir répondre à l'ensemble des Normands.
J'ai aussi une petite remarque à faire, j'aurais peut-être dû le dire dès le début. C'est Paris-Normandie, c'est pas le Paris-Normandie. Beaucoup disent ça. Est-ce que
oui,
c'est
oui, c'est vrai.
Mais c'est vrai que le nom du journal, c'est Paris-Normandie, c'est pas le Paris-Normandie.
Voilà, Paris-Normandie avec toute l'option du Havre d'heure, ouais. Parce qu'on sait que les Havrais sont, c'est important pour l'identité havraise. Voilà. Donc on pense à tout le monde.
Très bien. Bah, en tout cas, pas de masculinisation du Paris-Normandie. Hein, on l'a bien compris, Anne.
C'est juste le fait que c'est y a pas d'article en fait devant le mot Paris-Normandie. Bon, après, c'est probablement peut-être un détail pour vos auditeurs, mais nous on est attachés au fait que le nom du journal c'est Paris-Normandie. C'est un tic de langage, je pense, le fait de dire le Paris-Normandie, probablement un tic un peu normand d'ailleurs.
C'est le nôtre, hein.
C'est pour ça qu'on va, je vais le prendre comme une marque d'affection et je vais m'en compter.
Tout à fait. Et pour terminer, comme on l'a dit tout à l'heure, abonnez-vous.
Merci beaucoup. En tout cas, je rappelle, Anne Boucher, vous êtes journaliste au sein du Paris-Normandie, faisant partie du syndicat national des journalistes, et Christophe Mulot au sein du SILPAC CGT, également salarié du Paris-Normandie, en tant qu'ouvrier à l'impression. Donc les bobines, les rotatives, ça vous connaît, hein ? Merci beaucoup à vous deux. En tout cas, prenez soin de vous ainsi que des équipes et de votre entourage, hein, bien entendu. On se retrouve très prochainement. Voilà, n'hésitez surtout pas. En tout cas, cette antenne est également la vôtre pour faire passer vos messages, bien entendu, et toujours continuer de tisser ce lien social avec vos abonnés et l'ensemble du territoire normand. À très très vite, en tout cas.
Merci. À bientôt.
Au revoir.